שבתם ישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre lecture de Parashat Vayeshev. Nous allons revenir un instant sur le conflit qui oppose en fait Yosef et ses frères. Alors Yosef reproche à ses frères essentiellement trois choses. Il les accuse de cruauté, c'est-à-dire qu'ils mangeaient vers Minahai. Donc ils font la chita, l'animal est encore en train de bouger et ils coupent une part de l'animal qui est pour un bête noir considéré encore vivant et ils en consomment. La deuxième chose dont ils les accusent, c'est la débauche. Et enfin, ils humilient les enfants de Zilpa et de Bilha. Alors ces trois accusations, en fait, les discrédite, les rend impropres, incapables de prendre le pouvoir, d'avoir un droit de gouverner. Donc ils ne peuvent pas. Donc c'est des accusations choisies. C'est ainsi que elles sont comprises par les frères. Donc, ils peuvent accuser Yosef de vouloir comploter à leur encontre. Donc, ils le considèrent comme étant un danger pour l'institution, la tribu, ou bien la famille, ou le devenir de Am Israël. Donc, et comme nous l'avons dit, de la même manière que Abraham a eu Ishmaël, et ça, Yitzhak a eu Esav, Yaakov, il est possible que Yaakov a eu un rejeton, un enfant qui n'est pas correct, qui est lui aussi un élément qui n'est pas totalement purifié. Donc, et le fait que Yosef prenne la défense des faibles, de ses frères les plus faibles, donc les enfants des Shvachot. Donc c'est toujours comme ça que les révolutionnaires, ceux qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent s'accaparer du pouvoir, c'est toujours cette idée qu'ils emploient. Ils sont là pour, non pas pour eux-mêmes, mais pour la défense des faibles et des laissés pour compte. Et ils renversent le pouvoir et ils se l'accaparent et ils font peut-être parfois pire que leurs prédécesseurs. Donc c'est cette nekuda là. La question qui se pose à nous, c'est comment Yaakov a laissé faire. Pourquoi cette opposition existe-t-elle? Alors, en fait, si on veut véritablement saisir le conflit qu'il y a, qui se résume un conflit entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Grossièrement, schématiquement, c'est cela le problème. Et ce problème-là résulte en fait du conflit, de l'opposition qu'il y a entre Yaakov et Esav. Donc au départ, Yaakov, en tant que Yaakov, ne doit se créer, construire une famille qu'avec Rachel. Seulement Yaakov, sous le conseil de sa mère, il s'est accaparé des brachot qui étaient destinés à Esav. Donc en fait, Il s'est accaparé la fonction de Esav. La question qui se pose, pourquoi Yitzhak aurait voulu bénir Esav alors qu'il sait pertinemment la qualité de chacun de ses enfants? Parce qu'en fait, il voulait partager les fonctions, faire en sorte, comme un genre de Issachar et Zevulun, que l'un soit dominé, domine la matérialité. Donc Esav serait celui qui subviendrait aux besoins de son frère, et son frère étudierait la Torah. C'est pour ça qu'ils ont partagé les mondes d'ailleurs. C'est-à-dire que la maîtrise de la matérialité, la domination de ce monde matériel est donnée à Esav pour qu'il la maîtrise, afin qu'il puisse subvenir aux besoins de son frère, et le monde spirituel est donné à Yaakov Et après, ils partagent chacun selon son mérite. Donc, ils sont associés. Et c'est ça l'idée fondamentale de Yitzhak. Maintenant que Yaakov s'est accaparé des brachot, donc il a dénudé de sa tunique, il a dénudé Esav de sa tunique, de sa fonction. C'est pour ça qu'il va devoir se marier en premier avec Léa. Quand il arrive, il travaille 7 ans et il fait les kiddushin. Le kiddushin qu'il fait, donc en vérité, quand là, si nous disons que la sriroot est payée, donc le travail, il a payé par son travail en dernière, au bout des 7 ans, il paye le travail pour la vanne. Donc c'est avec cela qu'il a fait les kiddushin de Rachel. Mais au moment de la cohabitation, il se trouve que c'est Léa. Alors il lui dit, mais comment c'est possible? Il lui dit à Léa, comment je dis Rachel et tu me réponds oui, que tu es Rachel alors que tu es Léa? Il dit, mais toi aussi ton père appelle Esav et tu dis que tu es Esav. Donc cette idée-là, c'est qu'en fait, à partir de maintenant, puisque toi Yaakov, tu es aussi Esav, tu t'es accaparé la fonction d'Esav, donc tu dois te marier avec Léa en tant que Esav, en tant que remplissant cette fonction. Et après, il doit se marier avec Rachel en tant que lui-même Yaakov. Ce conflit-là qu'il y a entre Esav et Yaakov va se répercuter entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Donc Yosef, en tant que héritier de véritable héritier, comme il est dit au début de la paracha, elle est toldot Yaakov Yosef. Quelle est Les Chazal nous disent que le prolongement de Yaakov, c'est Yosef. Donc c'est ça, et c'est ce conflit-là qui va dominer, la domination, qui va conduire le peuple. En fait, il y a ici une conjugaison des deux qui doit se faire. Alors cet élément-là, nous allons essayer de l'expliquer. Yosef, comme nous l'avons dit, n'a pas d'énergie propre. Il est le canalisateur des énergies de ses frères. Il est celui qui conjugue les énergies de chacun pour permettre à la royauté de s'exprimer. Et c'est ce que nous allons voir dans la paracha. Dans la paracha, il y a une parenthèse entre le moment où les frères vendent Yosef et le moment où Yosef arrive en Égypte. Il y a tout un chapitre qui est le chapitre 38, Vaï ba'etaï, vaïe redi ouda metehav. Précédemment, il est dit, Vamedani machuoto el mitrin le potifar seris paro. Donc, il est dit dans le verset précédent que les Medanim l'ont vendu à Potiphar. Là, on nous raconte l'histoire de Yehuda qui a été destitué, Vaïe redi ouda, Rachidi, qu'il a été repoussé parce que c'est lui qui a proposé de le vendre. Et les frères ont regretté, l'ont destitué de sa fonction de prédominante en tant que futur roi ou détenteur du pouvoir. Là, il y a toute une parenthèse de l'événement qui se passe. Yehuda, les enfants de Yehuda, après Tamar, et après la naissance de Zérah et Péret. Et après, la Torah revient sur l'histoire de Yosef. À la fin de ça, il y a marqué quand Vaïk et Meshiviado, donc il y a marqué ici à la fin de ce chapitre 38 que Tamar va accoucher de jumeaux. Donc c'est Zérah et Pérès. Donc ici, c'est la naissance de ceux qui vont donner l'ancêtre, si on veut, de Machiar ben David. De David et de sa lignée. Après, il est dit Yosef Urad Mitzrayma. Et après, on nous raconte que Yosef a été descendu en Égypte et que c'est Potiphar qui l'a acheté. Vayachem et Yosef, et Yosef est dans la maison de Potiphar et il réussit, etc. Donc, on voit bien que la possibilité, il y a ici une idée que la Torah veut à travers la structure de la paracha. comment les événements sont énoncés, sont exposés. Il y a l'idée que c'est Yosef qui permet à Yehuda d'amener au monde Zerach et Peretz, qui sont les qui vont donner naissance à la royauté d'Israël. Yosef, il est absent. Alors donc, on voit que cette notion chez Yosef, c'est cette fonction de Yosef qui permet aux autres, en particulier à la royauté, de s'exprimer, de s'épanouir. Mais Yosef est absent. Yosef, il agit de manière voilée, cachée. Ce n'est pas apparent, ce n'est pas directement Yosef qui agit, mais c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui permet aux choses de se faire. C'est cette notion-là qui est mentionnée dans la paracha. Alors, à travers cette idée que Yosef a été vendu à contre-gré, contre sa volonté, etc. Donc, c'est quelque chose de totalement négatif. Mais derrière cela, il y a, sans qu'on le dise, mais on le voit apparaître, la venue déjà de la royauté d'Israël. Cette notion-là, elle est particulièrement intéressante parce que ça va se reproduire exactement la même chose avec Shaoul et David. Et c'est le Mashiach, Chazal nous dit que c'est Mashiach ben Yosef, qui annonce la venue du Mashiach ben David. Donc les étapes de la Géoula se passent de cette manière-là. Donc, et c'est ça l'idée qui est sous-jacente de cette histoire. Quant à Yosef, donc Yaakov, c'est ça l'idée qui a marqué que Yaakov, il a envoyé, il l'a envoyé des profondeurs de Hevron, alors que nous savons que Hevron est sur une hauteur. Alors l'idée, Rachid dit, au nom du Midrash, qu'il l'a envoyé sous le conseil profond, l'idée profonde, le projet qu'Akadosh Baruch Hu avait dévoilé à Abraham, que la galoute. Donc il ne peut y avoir de formation de Am Israël que si on passe auparavant par l'étape de la galoute. Et c'est cette galoute-là qui va permettre... La lumière ne peut être appréciée que s'il y a l'obscurité. S'il y a continuellement de la lumière, on ne sait pas apprécier les choses à leur juste valeur. C'est ça l'idée qui est marquée ici. Et juste après, il est dit, un passage très intéressant, « Voyez Hachem et Yosef ». Le passage qui dit que « Voici Hachem était avec Yosef ».« Voyez Ish Matzliya ». Yosef est un homme qui réussit. Voyez Bebet Adonav Amitri. Et le voici dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ce passouk-là, c'est un passouk qui concentre toute la tzlacha de Yosef. C'est-à-dire que même l'Égyptien, même Potiphar, constate de la présence continuelle de Kadosh Baruch Hu avec Yosef. Voyez Hachem et Yosef. Voyez Ish Matsiliar, il y a marqué trois fois le mot voyez. Voyez Bebet Adonav Amitri, c'est ce verset-là. D'ailleurs, c'est un passo qui mentionne quand on invoque, on cherche à avoir la Hatzlacha. Alors, c'est un passo qu'on mentionne pour implorer la réussite, pour susciter la réussite. C'est ce passo-là qui est mentionné. Et ça fait référence à des formules kabbalistiques qui sont rapportées dans les Sfarim Akedoshim. Le mot Vayehi est répété à trois reprises. Et alors, pourquoi il est répété de manière récurrente? Il était suffisant de dire Vayehi Hachem et Yosef. Et point final. Vayehi Hachem et Yosef. Ish, Vehu, Ish, Matsliach. Pourquoi à chaque fois répéter? Le mot vaï, c'est le Shem Hashem. En fait, il fait référence au Shem Hashem. Donc, c'est une composition du nom de Dieu qui suscite, qui indique la réussite, la présence de Dieu de manière visible. Et c'est à tel point visible que même Potiphar le constate. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Vayar Adonav qui Hachem ito. Donc Potiphar a vu qu'Hachem était avec lui. Mais quand Hachem ouvre, Hachem a servi à Dieu. Donc il voit que tout ce qu'il fait est parfaitement réussi. Donc il a une grande satisfaction. Alors qu'est-ce qu'il fait? Vayav Kideo Albeto, mais quand Hachem l'entend bien Dieu, lui se retire des affaires. Potiphar, il a compris, c'est un homme intelligent. Il dit, j'ai pas besoin de m'occuper des affaires. Il se retire des affaires et il confie totalement la gestion de ses affaires, de sa maison, la direction de tout son business entre les mains de Yosef. Donc il se retire. Ça, c'est, il n'y a pas plus grand Kiddush Hashem que cette idée que tout ce que fait Yosef est une réussite totale et parfaite. Et tout le monde est content. C'est ça là, l'épanouissement de Yosef. Et cet épanouissement ne peut se réaliser que si Yosef est en Égypte. Tant que Yosef est à côté de son père, à côté avec ses frères, ça ne marche pas, on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'il est retiré, il se met en retrait. C'est le concept même du Yesod, le Yesod, le Sadik Yesod dans l'âme, c'est c'est le fondement, c'est-à-dire c'est la fondation de la construction, la fondation elle-même. On fait des fondations, les fondations ne sont pas visibles, mais on sait que c'est les fondations qui tiennent l'édifice. Et c'est ça la madriga de Yosef. Et c'est cette madriga-là qui va permettre à la fin, à Yehuda de se réaliser. Quand Yehuda vient défendre et avance, Vaigash et la Yehuda, c'est alors qu'on voit la responsabilité, Yehuda récupère sa responsabilité de roi, c'est quand Yosef le lui permet. Et c'est ce qui va se passer après avec David Améler, lorsque c'est du fait de Shaoul à qui on a prêté la royauté, qui va d'abord l'initier pour après la confier. Akadosh Baruch Hu va après la donner à David Améler. C'est seulement après que David pourra s'épanouir totalement. Il y a une relation, c'est Shaoul qui est roi et David qui est un simple individu qui va combattre Goliath devant Shaoul. C'est cette idée-là, c'est Shaoul qui permet c'est du fait de Shaoul que David peut s'exprimer et peut détruire et peut tuer, vaincre Goliath. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.